Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette rencontre entre Sophie d'Ivry et Antoine Wauters qui publie des ouvrages liés par une certaine idée de ce qui peut vivre ou survivre ou, et se dire ou encore s'écrire quand on se situe après la catastrophe. Sophie d'Ivry, vous m'avez volé mon exemplaire de votre livre. Vous publiez en effet 3 fois La fin du monde aux éditions Noir sur Blanc. C'est un récit en 3 parties, Le prisonnier, La catastrophe, Le solitaire. Qui, après vos ouvrages précédents, notamment le public a peut-être entendu parler de La condition pavillonnaire ou Quand le diable sorti de la salle de bain, continue de rouvrir le roman pour prendre le titre d'un essai que vous avez publié à ce sujet l'an dernier. Et Antoine Wauters, vous êtes sur les routes de la rentrée littéraire depuis déjà un moment, un peu partout, avec 2 publications simultanées, Pense aux pierres sous tes pas, et Moi, Marthe et les autres, dont on va peut-être un peu davantage parler cet après-midi. Pourquoi 2 publications simultanées ?
Parce qu'ils sont... Je crois que je les ai plus ou moins terminés en même temps. Et le thème de la gémellité est très présent dans Pense aux pierres sous tes pas. Et symboliquement, pour moi, le fait de les avoir terminés en même temps, on s'est dit, avec mon éditrice Colette Olive, qui est là, que c'était peut-être une bonne idée de les faire naître en même temps aussi et de les jeter dans le grand bain de la rentrée littéraire.
Alors c'est toujours difficile de résumer en quelques phrases des ouvrages. Voilà, parmi vous, il y en a qui l'ont lu, qui les ont lus, d'autres qui les ont pas lus. Je pense que pour les livres d'Antoine Wauters et de Sophie d'Ivry, c'est encore pire parce que ça ressemblerait au pitch d'un mauvais feuilleton d'anticipation, si je le fais mal. Donc je vous propose que plutôt que d'essayer de vous dire en quelques mots ce dont il s'agit, ils vont vous lire 2 extraits de leur livre. Et comme ça, on verra un peu d'emblée et le dispositif d'écriture et l'univers. Antoine, je vous laisse commencer.
Marthe, alors.
Ouais, moi, Marthe et les autres.
Je contextualise pas du tout.
Si vous voulez.
Non. Nous arpentons le boulevard Saint-Germain et inspectons les restes des combats de nuit. Nous regardons devant nous, nous agenouillons. Josh dit « Y'a que des Maccabées par ici, Hardy, que de la chair carbonisée. » Il prend ma main et nous nous en allons, empruntant les petites rues et le funicule, nous menant en droite ligne chez nous. Nous fouillons les poubelles, entrons dans de vieux magasins. Marthe nous devance, obsédée à l'idée de trouver du lait pour nourrisson. « Ça sert à rien, Marthe, on lui dit. Tu le sais bien. Mais nos petits vont mourir si les choses continuent, hurle-t-elle. Et elle verse des larmes à peine perceptibles que nous ne regardons pas, que nous ne regardons plus. Nous avançons. Le matin, nous nous épouillons, nous coiffons, nous rinçons, frottons nos peaux les unes contre les autres. Les petits boivent l'eau de la veille et mangent des graines et des racines. Nous, nous boirons et mangerons le soir. » Si tout va bien. Nous nous prenons dans les buissons, vite, jour après jour, 3 heures par jour. Marthe dit que notre avenir en dépend et que nous devons le faire surtout quand on ne veut pas. Elle parle de grands frères et de petites sœurs et de très beaux enfants. Elle pleure. Le monde n'est plus comme avant, dit-elle. Nous la regardons, nous disons. Le monde n'a jamais été comme avant, Marthe. Nous ignorons les choses. Nous ne savons rien de la beauté. Nous sommes les derniers nés du monde. Nous sourions. Depuis quand nous vivons comme ça, c'est impossible à dire. Ce qui s'est réellement passé, nous l'ignorons. Comment ça se terminera ? Mal, dit Josh. Toutes les belles aventures finissent mal. Et il sabre une bouteille de Gewürztraminer. Après cela, il n'en restera que 13, cachés au fond de la grotte. Une idée serait d'entreprendre un voyage, dit Marthe. On n'a pas la moindre chance de s'en tirer en restant là. Nous la regardons, lui sourions, elle reprend. En même temps, il n'y a pas la moindre chance de s'en tirer si nous partons, je le sais, et Marthe de se joindre à nous autour du feu. Nous chantons « Que je t'aime » toute la nuit, un vieil air poétique que nous chantait le Vioque quand on pleurait. Il y a eu des combats durant la nuit. Nous avons entendu les cris, nous avons vu les flammes, nous nous sommes blottis les uns contre les autres et avons dit les mots qui sauvent, ceux qui protègent. Demain, nous irons voir si les chairs sont carbonisées. Si oui, nous les écarterons. Sinon, nous les mangerons. Nous avions tout, dit Hatzupto. Nous avions trop. Aussi était-il juste et bon de tout perdre, puis de tout recommencer. Nous étions gros, enchaîne Patrappe, beaucoup trop gros, obèses, pourrigatés. À présent, nous devons tout reprendre à zéro, tout recréer, la vie, l'espoir et la joie tout au fond de nous. Et je termine. La patrouille vient de rentrer. Elle a trouvé des bidons de Saint-Doux, du coquelat, des clopes Malbro, du lait imbuvable, des boîtes de sardines à demi rouillées, 2 kilos de maïzène pour sauce brune, 6 sacs de riz. Nous leur faisons la haie d'honneur. Merci. Puis nous baisons leurs pieds. Attention à ce qui est alléchant, dit Josh. Ce qui est alléchant est dangereux. Jocelyn, qui ne l'écoute pas, porte à sa bouche un morceau de sardine d'un vert fluo étrange. L'instant d'après, il repose sur le sol. « Mort, dis-je. Mort, reprend Josh. Mort, fait le pauvre Jocelyn, qui dans un dernier spasme n'a même pas le temps de nous. » Ça s'arrête là.
Sur ces points de suspension, Sophie, qu'on remercie de se prêter à l'exercice parce qu'elle vient d'avouer qu'elle ne l'aimait pas du tout.
Non, parce que j'ai toujours mal au ventre quand je lis...
Ouais, mais bon, là, vous avez été prévenu juste avant, donc ça va, vous n'avez pas eu le temps.
Mais donc, c'est vrai que je remercie Joseph de ne pas nous se prêter à l'affreux exercice du pitch, parce que, en plus, comme c'est vraiment 3 tableaux, pour le coup, là, je vais vous lire le tableau central dans la catastrophe, vu que la rencontre est un peu sur ce thème-là. Mais ça ne. Les deux autres sont différents, voilà. C'était juste pour vous dire, c'est pas tout le temps comme ça, quoi. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, ça vous rassure. Et si ça vous plaît, ça vous décevra. Mais c'est... La mort vint un matin. Il a suffi d'une longue fissure, d'une explosion, de l'air soufflant la mort par des rayons. D'invisibles radiations et tout a commencé. D'invisibles radiations qui très vite ont tué. Et vos villes aux rues remplies de médisances, villes où les pauvres se recroquevillaient, où les mères vivaient le cœur intranquille, et les riches, jamais rassasiés, vos villes et tous ceux qui s'y trouvent, tous les cœurs, les bons et les fourbes, désertés. La moitié de l'Europe irradiée, la moitié de la France évacuée. Vous couliez béton sur béton. Vous vous pensiez en sécurité. Vous disiez, nous contrôlons nos inventions. Et c'est la catastrophe qui a pris le contrôle. Vous disiez, nous maîtrisons le danger. Et le danger est venu de notre côté. Vous disiez, nous réagirons rapidement. Et la catastrophe a été la plus rapide. Vous pensiez vivre éternellement. Vous n'écoutiez plus les plaintes, vous ne craignez plus les tempêtes. Il a suffi d'une longue fissure, d'une explosion, de l'air soufflant la mort par des rayons. Les radiations survolant vos visages, et déjà vous ne pouviez plus vous lever, comme un rêve. Une vision nocturne, ce cauchemar. Ceux qui sont debout regardent le ciel, soupirent et tombent. Les cris des nourrissons sur les quais de gare, il n'y a plus d'entraide et tout est dévasté. Ainsi en fut-il de vos terres, vos villages, vos familles, jusqu'à vos nations alliées. Des radiations d'un nouveau type et vos certitudes sont tombées. Il n'y a pas à chercher de faute originelle, ni de vaccin, ni d'explication. Des radiations d'un nouveau type et 1 000 000 000 de décès. Les hommes, les femmes, les enfants, la plupart des chiens, les chevaux, les vaches. Mais les arbres, les plantes, les mouches, les vers de terre ont continué. Quelques départs de feu qui s'étouffent. Les routes maintenant vides. Les villages dans le silence. Vos blés ne seront jamais récoltés. Il n'y a plus d'allégresse, plus d'ambition. Plus de petits cafés au tabac maison de la presse. Mais des rats formant des meutes cherchent à dévorer vos possessions et vos déchets. Que trouvera-t-on dans vos maisons quand on aura retiré la vie électrique? Que restera-t-il des disputes conjugales et de vos maladies chroniques, de toute cette rapacité?
Merci beaucoup. On pourrait continuer comme ça. Moi, c'est ce que je préfère, je crois, les lectures, mais on va croire que je n'ai pas lu vos livres et je n'ai pas de questions à vous poser. Donc, je vais quand même enchaîner avec une première question pour tous les deux. Peut-être Antoine, pour commencer. Comment est-ce qu'on décide d'écrire sur l'après de la catastrophe, sachant qu'on a forcément plein d'images qui surgissent, que ce soit les films, que ce soit, y compris en littérature, hein, depuis... Robinson Crusoe jusqu'à la route de Cormac McCarthy, on a l'impression que voilà, c'est balisé d'images. Donc comment est-ce qu'on se situe quand on s'engage dans une écriture d'après la catastrophe ? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces images qui forcément... Est-ce qu'elles sont embarrassantes ? Au contraire, est-ce qu'elles sont stimulantes ?
En fait, je m'aperçois que toutes ces influences-là n'existent pas quand je me mets à écrire. C'est très bizarre, comme si un voile d'opacité se faisait. Et en l'occurrence, pour moi, Marthe et les autres, c'était une période de ma vie où ça n'allait pas du tout. Donc j'étais en plein dans la catastrophe moi-même. Et cette catastrophe intérieure qu'on connaît tous, par moments, hélas, dans nos vies, elle faisait, à mon sens, écho aux temps troublés qui sont les nôtres aujourd'hui. Et je n'avais pas du tout envie d'en faire un livre, encore moins un récit ou un roman. J'ai commencé simplement à prendre des notes. En réfléchissant à toutes ces choses-là, la question de la transmission, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut encore léguer à nos enfants dans un monde qui est largement abîmé, détérioré, comment est-ce qu'on se maintient debout alors qu'on est dans une sorte de situation où il ne reste que des fragments, comment la mémoire elle-même va réussir à se redéployer alors qu'on est une génération de l'oubli. Voilà, c'est tout ça. J'ai pris des notes et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était peut-être bien de faire, de donner ces paroles-là, ces réflexions à des personnages qui sont très nombreux dans le livre, mais qui sont des espèces de personnages comme dans Beckett, un peu vides et dont la personnalité intérieure ne compte pas vraiment. Ce sont des passeurs de voix.
Et du coup, tout de suite une question avant de reposer la même à Sophie, parce que vous avez bien lu, mais vous n'avez pas tout lu en fait quand vous avez lu votre texte, parce que vous n'avez pas lu qu'il y avait des numéros avant chaque paragraphe. Donc ça, est-ce que ce fonctionnement du livre, ce dispositif, c'est la poursuite de l'écriture par notation ?
Oui, peut-être. Et puis c'était une manière d'ordonner le chaos. Je pense que le personnage principal, Hardy, qui est quelque part le scribe, qui consigne toutes les paroles, tous les dits de sa bande d'amis, je crois que sa pensée à lui, il faudrait lui demander, c'est... Comme tout se perd, comme tout se délite, et comme ils arpentent un Paris qui a été dévasté par une catastrophe dont on ne dit jamais le nom, dont je ne dis jamais le nom, je crois que lui, sa grande anxiété, c'est de se dire que toutes ces choses qui vivent, les bonnes comme les moins bonnes, elles risquent de se perdre s'il ne les consigne pas. Et donc le fait, je pense, de numéroter les paragraphes, c'est comme tracer un chemin balisé avec des repères, des petits cailloux.
Vous, Sophie, ce rapport à... toutes les images qu'on peut avoir du monde post-apocalyptique, est-ce que ça a été embarrassant ou au contraire facile à mettre à distance ?
Oui, c'est une vraie question. C'est une bonne question. Parce que moi, à la base, j'aime pas trop les films de catastrophes et tout ça. Mais en effet, ouais, moi, je trouve que c'est assez encombré. En fait, quand je me suis rendu compte que pour écrire un Robinson contemporain, c'était quand même un peu ça le projet, non seulement j'avais les Robinson à gérer, évidemment, ceux de Tournier et puis ceux de Marlena Haushofer, mais il fallait faire une catastrophe mais ça me gênait un peu parce que c'est pas trop mon truc à la base de tuer la moitié de l'Europe et tout ça. Et puis même dans un livre, je trouve que c'est gênant. Enfin, moi, ça me gêne les cadavres, les trucs avec les, notamment parce que ça envoie un message trop fort. Voilà. Alors que moi, l'idée c'était de faire une expérience mentale, une expérience littéraire de trois tableaux de fin du monde. Évidemment, c'est pas pour rien si malgré moi, j'allais dire, je devais travailler cette question-là. Mais concrètement, je crois que justement, la fin du monde, je viens de vous la lire, c'est pratiquement une sorte de mini-poème, enfin un poème en prose, parce que je pense que je m'appuie sur vous, justement. Je m'appuie sur cet imaginaire saturé d'images, où quand dans un roman, là ça commence quand dans un récit peinard, j'allais dire, un récit tranquille.
Oui, ça s'arrête. Il faut préciser pour ceux qui ont mal lu que la première catastrophe, c'est la prison.
Oui, voilà, le premier tableau, c'est la prison. Le personnage principal arrive en prison. Et le récit est un récit à la première personne où il raconte ce qui lui arrive de manière assez tranquille. Enfin, je veux dire ça parce que personnellement, c'était le plus facile à écrire, où on est dans un récit classique. Voilà. Mais bon, ça s'arrête et la catastrophe arrive. Mais là, je pense que justement, je n'ai pas eu besoin d'en dire beaucoup plus parce qu'en écrivant la catastrophe comme celle que je viens de vous lire, après, ce n'est pas nécessaire d'en rajouter. parce que je compte le fait que vous savez très bien ce que ça veut dire une catastrophe dans la fiction. Voilà. Ça veut dire que tout s'est arrêté. Voilà. Donc moi, ce que j'ai appuyé, c'est plutôt le fait sur ce passage-là, j'en ai plutôt fait quelque chose du livre prophétique aussi. Mais oui, c'est difficile parce que moi, j'avais lu La Route de McCarthy, tous ces trucs-là, et je voulais surtout pas faire un livre post-apocalyptique ou des choses comme ça. Je voulais pas. Je voulais que ça permette juste de que. Je voulais très romanesquement, de manière difficile à l'intérieur du roman, que le personnage principal choisisse d'être un Robinson. Contrairement au Robinson de Michel Tournier ou de Marlène Haushofer dans Le Mur Invisible, où il y a un accident qui contraint la personne à rester seule. Là, il voulait avoir un choix. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en prison les 50 premières pages, pour que Joseph, le personnage principal, développe une très forte dose de misanthropie et que du coup, à l'occasion d'une catastrophe où il peut s'échapper de la prison...
Pour lui, il y a quand même une différence, c'est que la catastrophe est aussi une libération.
Voilà, c'est ça. Mais après, il y a encore une scène qui l'enferme encore plus, mais ils disent, puisque je déteste tout le monde, je ne veux pas retrouver le monde d'avant. Voilà.
Par rapport, Antoine, à quand même justement être embarrassé ou pas par toutes ces images qu'on a, quand on vous entendait lire, les gens ont peut-être reconnu des mots, mais pas tout à fait les mots, quoi. Cloc-clac, des mots qui évoquent des mots du monde d'avant. Mais c'est vrai que, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, mais j'ai l'impression que vos deux livres par rapport à La planète des singes, par exemple, qui commencent par Qu'est-ce qui reste du monde d'avant, ce n'est pas des livres qui sont comme ça saturés par les traces du monde d'avant. Ou alors c'est vraiment de manière plus épisodique.
J'ai commencé ça sans me poser beaucoup de questions, sinon une qui moi m'obsède vraiment beaucoup, et c'est ce qu'on retrouve dans l'atteinte au langage qu'il y a dans le livre, c'est-à-dire que les lettres des devantures de magasins, des marques, des noms de produits alimentaires, etc., certaines tombent. Et donc on ne boit plus du Coca-Cola, mais du Coca-Cola, on fume des Marlboro, etc. Et j'avais le sentiment que peut-être cette chose-là nous guettait aussi aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Quand je suis très obsédé par l'idée de l'accélération du temps, ou en tout cas de notre rapport au temps, qui fait que notre mémoire, elle est pratiquement toujours en dehors de nous-mêmes. Aujourd'hui, quand on ne sait plus qui est Albert Camus ou qu'on cherche quelque chose de précis le concernant, on va fouiller la mémoire de nos téléphones, de nos ordinateurs, etc. Et je me suis dit, si dans un monde qui, pour une raison X, est abîmé, au point que tout ce qu'on connaît disparaît lui-même, ou en tout cas au point que c'est largement endommagé, comment est-ce qu'ils vont faire ces personnages, ces jeunes gens à qui on n'a rien appris, puisqu'ils sont nés après la catastrophe, ils n'ont pas connu leurs parents, qu'est-ce qu'ils font? Comment, avec des petits signaux qu'ils trouvent partout, comment est-ce qu'ils réécrivent leur histoire et comment est-ce qu'ils relient ces bouts de passé, ces fragments dans lesquels ils évoluent? Ça m'obsède beaucoup. Donc pour moi, ce n'est pas un livre d'anticipation. C'est pas une dystopie, c'est hélas peut-être un miroir grossissant de choses qu'on a déjà un petit peu sous le nez et sous les yeux aujourd'hui.
Oui, c'est effectivement pour ça que je
voulais
pas...
J'ai botté en touche. Hein.
Non, pas complètement. Vous n'êtes pas du tout ni l'un ni l'autre des lecteurs de science-fiction. Enfin, on n'a pas du tout l'impression de se saisir de livres d'anticipation.
Non, je sais pas tellement. Parce que le problème de la science-fiction, c'est que dès qu'il y a des descriptions techniques, ça me saoule. Et en général, j'ai affreux de dire ça, parce que je suis persuadée que tout le monde va me dire « Oui, vous n'avez pas lu ci, tout ça. » Mais en général, quand j'ouvre un livre de science-fiction, pour moi, la phrase n'a aucun intérêt en tant que telle. Ce qui a intérêt, c'est l'histoire, et que l'histoire, en général, m'ennuie. C'est comme les romans policiers. En fait, ça ne m'intéresse pas de savoir qui a tué qui. Donc du coup, il faut tout de suite qu'il se passe quelque chose dans le texte, dans le style,
Mais là, c'est plus simple, tout le monde est mort, donc on n'a pas besoin de savoir qui a tué qui. Voilà.
Mais en même temps, j'en fais pas. Enfin, pour ouvrir le roman, justement, j'en fais pas une fierté.
Donc,
parce que
le roman, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, un essai que Sophie Divry a publié.
Je pense qu'on a intérêt tous.
L'année dernière.
Tous les écrivains, on a tous intérêt à lire des choses très, très variées dans la grande maison de la littérature, notamment de la poésie, du théâtre, et lire des romans policiers, des romans des arlequins ou des science-fiction. Je suis persuadée que ce serait très utile et très important. Mais je n'arrive pas pour l'instant, sinon je n'ai pas rencontré, comme c'est surtout une affaire humaine en fait, la lecture, un passeur qui me permettrait de rentrer dans la section science-fiction. Où j'irai de façon pour piller absolument tout ce qui est bien. Hein, comme tous les écrivains, de façon, on passe notre temps à piller les autres, ça fait partie.
Notre vie, pour nous qui sommes nés après l'événement, mais quoi, que s'est-il réellement passé, c'est d'être obligé d'inventer, vous écrivez Antoine Wauters. Est-ce qu'il faut prendre ça comme une mise en abîme, de ce travail d'écriture quand on écrit sur Après la catastrophe? Est-ce que ça permet, pour le dire un peu naïvement, mais pas que, d'inventer différemment de vos textes précédents, d'être obligé d'inventer?
Oui, je crois. Je pense. Ce qui est parfois préoccupant, c'est de se dire que, en tout cas, le précédent roman que j'avais écrit, c'était Nomère, aux éditions Verdier aussi. Et entre-temps, donc, il y a 4 années qui sont passées, et je me suis rendu compte que ma vie personnelle ayant plus ou moins volé en morceaux à l'époque, je me suis dit, tiens, on a toujours l'impression qu'on peut se lancer dans l'écriture d'un roman en considérant que le sol est stable, que la nature nous est acquise une bonne fois pour toutes et que rien ne va se passer. Et donc, je pense parfois qu'on écrit des romans en étant assez tranquille. Et là, j'ai écrit ces textes-là en étant totalement intranquille vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de notre avenir aussi. Et donc, par la force des choses, j'ai été amené à écrire tout à fait différemment et à composer avec cette noirceur qui était la mienne à l'époque et la noirceur du monde qui nous entoure, en essayant, parce que c'est quand même important de le dire, de faire cheminer les personnages vers quelque chose. J'appelle ça dans Marthe les raisons d'espérer. Je pense qu'ils ils n'abdiquent pas. Ils se disent, bon, les possibilités de se réjouir de notre monde, elles sont restreintes, mais mine de rien, malgré tout, peut-être qu'en s'agrégeant les uns aux autres, en faisant bloc, peut-être qu'on peut quand même trouver quelque chose qui ressemblerait à une joie ou à de petites joies. C'était ça.
On va parler des raisons d'espérer, mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Sophie, sur un peu la même question, mais qu'on pourrait formuler autrement, parce que là, dans l'extrait, vous nous avez lu, à un moment, vous dites « vos certitudes sont tombées ». Qu'est-ce que la catastrophe permet d'abattre comme certitude? Est-ce que c'est y compris des certitudes de langue, des certitudes de manière même d'écrire? Ou est-ce que, on peut dire, enfin, en gros, est-ce que le fait de se placer après la catastrophe permet d'abattre un ordre établi, j'imagine, mais un ordre qui est quoi? Qui est un ordre social, qui est un ordre commercial, qui est aussi un ordre du langage?
Oui, donc le plaisir que j'ai eu inattendu d'écrire ce passage sur la catastrophe, c'est que, et après, dans les premières pages de la Robinsonade qui commence un peu après, c'est que enfin on peut désétablir l'ordre établi. Voilà. En fait, je pense que beaucoup que la lecture est quand on lit vraiment un livre longtemps, sans téléphoner à côté ou tripoter des trucs sur des écrans, on rentre dans un état modifié de conscience qui permet de vous faire une expérience mentale. Voilà. Qui est proche évidemment de l'expérience mentale qu'on a du monde, mais qui est une autre forme d'expérience mentale que propose la fiction. Et donc là, enfin, on peut détruire le monde, quoi. Et alors, c'est vraiment peur. Mais en même temps, dans les premières pages de la Robinsonade, il y a ce plaisir de voir qu'enfin, c'est fini, quoi. C'est-à-dire que la propriété privée est terminée. Il peut se servir dans les magasins, tout est pourri, tous les gens qui ont passé leur temps à repeindre leur petit pavillon pendant des heures, c'est mort, quoi. Il n'y a plus rien. Il se sert à la base, en plus, il sort de prison, donc au début, là, il se sert comme un voyou et tout est à lui et tout ça ne servait à rien. Voilà. Donc ça, c'est réjouissant purement de manière démiurgique, j'allais dire. Mais après, dans le mouvement de la Robinsonade, il y a évidemment une reconstruction d'un ordre, et notamment de clôture et de limites. Mais au début, il y a cette destruction de la propriété privée qui est réjouissante. Voilà. Mais en tant que telle, pour continuer, enfin, pour si on est en plein dans le thème de l'apocalypse, moi, je pense que c'est un thème qui travaille quand même beaucoup les artistes en ce moment, dans tous les champs artistiques, j'allais dire. Parce que, en effet, on a l'impression que le sol sur lequel on est plus aussi stable qu'on pensait. Alors évidemment, nous, en une génération, la catastrophe écologique, on en a un peu beaucoup parlé depuis tout le temps. Depuis que je regardais les émissions de Cousteau, ça finissait par tout ça est très beau, mais maintenant c'est fini, l'homme détruit tout ça. Jusqu'à, en effet, le réchauffement climatique et le dérèglement climatique qui s'envolent. Mais je pense que si j'étais amenée à faire un livre justement sur la catastrophe, qui est une catastrophe au centre, c'est parce qu'on a vécu récemment aussi des expériences de catastrophes assez fortes. Enfin, je pense que la période des attentats nous a tous marqués comme quelque chose de l'ordre de la sidération, de quelque chose qu'on croyait impossible arrive. On ne pensait pas vraiment que quelqu'un pouvait arriver avec une Kalachnikov et tuer tout le monde. Et je pense que ça, Moi, il est hors de question pour moi de faire de la littérature à partir des attentats, mais je pense que en tant qu'artiste, on est choqué, voilà, en tant que citoyen et en tant qu'artiste. Du coup, nous, comme c'est notre travail, enfin, on essaye de faire quelque chose avec cette espèce d'impression mentale. Voilà. Mais on essaye, enfin, dans le sens, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Et ça se met sur la couche, en effet, où le sol tremble. On sent bien que le climat part en vrille totale et que ça part en vrille beaucoup plus vite qu'on le pense. Voilà, et que ça va, il fait très chaud, quoi. Il fait très, très chaud. Moi, j'ai tous les étés à Lyon. Voilà. Donc, d'un coup, la nature n'est plus quelque chose qui nous rassure. Ça peut être quelque chose qui nous exclut. Et de même, pour venir sur la première partie de mon livre, je pense que la partie sur la prison, où je me suis beaucoup documentée sur la prison, qui est pour moi un grand scandale d'État, enfin, un scandale de société en général. J'ai lu ça à un moment donné où, justement, après les attentats, on était en plein dans les manifs de la loi travail, où il y avait une énorme répression très brutale, très, très terre-à-terre, quoi. On passe la loi alors qu'on avait dit qu'on ne la faisait pas, on le fait au 49-3, on crève des yeux aux manifestants, ça pose aucun problème. Et ça, tout ça prenait une ambiance qui, finalement, je pense que le premier tableau est un tableau de la violence d'État. Voilà. Mais c'est une forme de fin du monde. Parce qu'on pensait qu'on était dans une espèce, on a vécu à ça quand on est à mon âge, où on a une espèce de progrès, voilà, où quand même on se tient tous par la main, l'Union européenne, etc. Et finalement, ça se brise complètement, tout s'effondre. Voilà. Et donc, il y a des tableaux de fin du monde. Évidemment, le tableau de la violence d'État n'est pas à comparer avec la violence attentatoire, c'est pas du tout ce que je dis. Mais moi, en tout cas, dans mon esprit, ça a pris une forme d'un triptyque. Voilà. Parce qu'au fond, que quelqu'un veuille rester tout seul dans la nature en disant « je n'ai rien à foutre des autres, je veux reconstruire le monde tout seul », pour moi, c'est déjà quelque part un échec. Voilà. Comme c'est déjà un échec, comme quand il y a des familles qui font ça ou qui s'isolent en disant rien n'affiche les autres, moi je fais mon petit paradis tout seul. Pour moi, c'est déjà un tableau où la destruction de la société a déjà été enclenchée.
Ça, c'est une question qui résonne aussi avec votre livre, Antoine, parce que ça pose une question de est-ce qu'après la catastrophe, on s'en tire tout seul ou on s'en tire à plusieurs ?
Oui.
Enfin, ou on s'en tire pas, mais.
La question.
Comme on essaye, en tout cas.
Mais la question se pose dans les deux livres, dans Pense aux pierres sous tes pieds, dans Montmartre et les autres. Mais juste avant ça, je rebondis sur ce que Sophie vient de dire. Je suis assez d'accord avec toi, hein, sur l'idée que voilà, le fait que des gens se retirent comme ça pour vivre seul est un échec. Mais dans ton livre, tout à la fin, moi c'est marrant, j'ai trouvé que c'était plutôt une réussite le fait que le personnage qui s'appelle Joseph, seul dans la nature, veuille, et c'est, pour moi je vis ça comme une forme de renaissance, quoi, avant quelque chose d'autre. Et donc pour revenir à ces questions là j'ai l'impression que c'est difficile d'opposer la reconstruction dans un groupe, donc quelque chose qui serait collectiviste, presque communautaire. À la fin de Pense aux pierres sous tes pas, il y a l'idée d'une communauté qui est créée pour vivre autrement et de façon plus autonome. Et en même temps, je pense que par rapport à toutes ces questions là ça ne peut pas marcher si on ne retrouve pas une solitude plus essentielle, vraiment première, c'est-à-dire un silence intérieur en se détachant de tout ce qui fait du bruit autour de nous. Et je crois que ces deux choses doivent peut-être... Il y a une mouche qui m'aime beaucoup, je crois qu'elle est tombée amoureuse de moi. Donc ces questions-là, pour moi, vont main dans la main. Et c'est pour ça que dans Pense aux pierres et dans Moi, Marthe et les autres, je ne tranche jamais. Il y a des moments de grande solitude où les personnages ont véritablement à être seul, et puis il y a des moments qui vont jusqu'au bout ou pas d'ailleurs, où ils se disent non, notre seule possibilité aujourd'hui de nous relever et d'avancer, c'est quand même de construire quelque chose ensemble. Je ne tranche pas ni dans les livres ni dans la vie, tout ça est très compliqué, je pense, à nuancer.
Sophie, sur cette question de la solitude et enfin de qu'est-ce qui pourrait rester de collectif après ça, sachant que quand même vos deux livres, même si ce n'est pas de la même manière, parce que dans le livre d'Antoine Wauters, on ne sait pas ce qu'a été la catastrophe, on la devine, mais il y a plein d'hypothèses. On n'est pas finalement après la catastrophe, on est après la catastrophe, puisque c'est déjà passé, alors que dans le livre de Sophie Divry, ça tourne quand même autour d'une catastrophe nucléaire qu'on vit dans le moment du livre. Donc c'est une forme de collectif, de nos sociétés qui ont mené à ça, même si on ne sait pas exactement ce qu'a été l'événement. Et après, on se pose forcément la question de... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait quelque chose collectivement ou pas ? Alors qu'on a là, pour le coup, encore, pour revenir aux imaginaires de départ, des imaginaires très différents selon que c'est la guerre de tous contre tous ou selon que, en fait, dans les situations difficiles, ce qui peut prédominer, c'est l'entraide et des formes de solidarité qui étaient inexistantes dans le monde d'avant.
Oui, mais là, si on est dans l'après, moi, j'ai pas de... J'ai pas de réponse, quoi. Enfin, dans le sens où ma réponse, c'est mon roman, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire, dans le sens. Mais souvent, d'ailleurs, c'est le principe de l'interview, quand vous posez des questions, puis moi, j'apporte des réponses. Mais on n'est pas là pour apporter des réponses. On est là pour interroger ou pour apporter des questions, plutôt. Dans le sens, je pense que. Bon, ce qui est sûr, c'est que. Sans se défausser, moi, je suis partie d'un paradoxe que je voulais exprimer de manière romanesque. Voilà. Qui est le paradoxe suivant. C'est infernal de vivre avec les autres, mais c'est impossible de vivre tout seul. Ou deux questions, bon, comment faire pour vivre avec les autres sans s'écharper et comment faire pour vivre tout seul sans perdre son humanité. Et donc, c'est mon roman, une espèce de super métaphore où on suit une incarnation, un personnage qui met en scène ces interrogations. Donc la prison, c'est le pire qu'on peut faire, voilà, parce que dans ce sens, on n'est pas seul en prison, il y a du bruit, la promiscuité, il y a des combines. Moi, j'ai fait un peu un ramassis de tout, de toute la prison, même de tout le XXe siècle, j'allais dire. Mais en même temps, je n'avais pas dit des trucs encore pires qui s'y passent, ce n'est pas la question, hein, mais sur l'incarcération, voilà, l'incarcération dans la société. Mais il est évident que moi, mon point de vue n'est pas du tout celui de Michel Tournier, par exemple, même si, évidemment, j'avais quand même la volonté de reprendre ce mythe de Robinson, parce que je pense que la littérature s'inscrit dans une histoire et que l'histoire littéraire se continue. C'est pas juste s'exprimer pour s'exprimer, quoi, parce que ça nous fait du bien comme une thérapie. C'est parce qu'on s'inscrit dans une histoire de l'art et qu'on continue des mythes et on continue des bouquins. Donc, moi, ça m'intéressait de reprendre le mythe de Robinson, parce que je trouve qu'il fait vachement résonance avec notre époque, justement, dans la mythologique de quelqu'un tout seul. En plus, c'est super séduisant, Robinson, c'est toujours le côté copain des bois, comment il va faire pour faire du feu, tout ça. On aime bien savoir comment les gens se débrouillent, quoi. On vit avec lui cette histoire-là. Mais en tant que tel, je ne suis pas dans la perspective de Michel Tournier, où au fond, pour lui, à la fin, sur Esperanza, la nature sauve l'île, où il y a des fruits et légumes toute l'année, ce qui est bien pratique quand même, paradis est une éternité. Et donc, dans Michel Tournier, à la fin, dans Vendredi ou les larmes du Pacifique, Robinson refuse de retourner à la société parce que là où il est, c'est l'éternité et c'est le paradis. Moi, évidemment, dans mon perspective, non. Là, il faut que le personnage, mais voilà, la métaphore, le personnage doit comprendre que la nature et la solitude est peut-être une deuxième prison. Mais après, je veux pas pousser.
Parce que quand même, sans être le paradis, on a l'impression que, comme vous dites, il franchit aussi à force des frontières invisibles, il entend les framboises pousser, enfin, il se reconnecte à quelque chose de la nature, non ?
Oui, mais il devient fou aussi, il devient complètement fou. Enfin, Mais après, chacun le vit comme il veut. Enfin, c'est comme sur le... Enfin, chacun peut voir la fin de différentes manières. Voir ça comme un paradis qui s'écroule, comme une tentation... Parce que c'est comme un peu le bonheur pavillonnaire dans La condition pavillonnaire. C'est à la fois formidable, c'est un bonheur, et à la fois c'est une grande menace. Voilà. La nature a ses deux fonctions. Mais au début, on est vraiment dans le bonheur d'être seul et de reconstruire. Mais au fur et à mesure, c'est pas pour rien si le bouquin finit sur le nous. Je pense qu'on s'en sortira ensemble ou on s'en sortira pas. Ouais. Mais ce que je pense, à la rigueur, n'a pas d'importance. J'espère que ce que je pense... Je pense que ce que je pense, moi, ou en tant que citoyenne, ou en tant qu'ancienne journaliste ou militante écologiste, ça n'a pas d'intérêt par rapport à la forme du roman qui essaye de dire quelque chose de l'ordre de manière poétique, quoi, que vous pouvez recevoir de manière différente, ben, j'espère.
Mais juste pour continuer là-dessus, après, c'est une autre question que je voulais vous poser, Antoine Wauters. Vous avez lu les collapsologues, comme on appelle aujourd'hui les gens qui vraiment pensent l'effondrement. Il y a toute une discipline qui est la collapsologie, où en fait, quand on creuse un peu, il y a des grandes divergences. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont dire, comme Rebecca Solnit, une essayiste américaine, que en fait, dans les situations, que ce soit le tremblement de terre de San Francisco au début du XXe siècle, ce qu'on voit d'abord, c'est au fond de l'entraide, alors que d'autres disent, c'est chacun pour soi. Est-ce que vous êtes documenté là-dessus ou pas du tout ?
Pas du tout. Non, je suis.
On a l'impression que vos textes, en fait, hésitent, enfin, prennent ensemble ces deux visions possibles de l'après-catastrophe. Mm-hmm.
Mais moi, je pense que j'écris pas du tout avec la part la plus intelligente de moi-même ou avec la part la plus intellectuelle, la plus rationnelle. J'écris vraiment avec des ressentis qui sont très forts, très présents et que j'essaye de clarifier petit à petit par le chemin de l'écriture. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de lecture préalable, mais c'est vrai que quand j'écris, je suis très très isolé.
J'écris comme un idiot, mais au sens étymologique du terme, je suis enfermé dans un monde de pensée, mais presque de pensée qui serait d'abord et davantage des sensations. Et ces sensations-là, ce ne sont pas simplement des sensations qui sont coupées de ce qu'on vit, c'est je pense, en lien très, très net, très évident, avec un esprit du temps. Mais j'ai pas envie, ce ne sont pas du tout des livres à thèse, je ne soutiens rien, je n'ai absolument aucune idée à défendre. Je rejoins un peu Sophie dans l'idée que peut-être il y a simplement un horizon de pensée qui est là, qui est posé. Et puis après, j'espère que les lecteurs peuvent cheminer, ou j'espère qu'ils pourront cheminer à travers tout ça, y compris sur le plan moral. Je ne veux pas du tout interférer, parce qu'il y a quand même des scènes assez crues dans Moi, Marthe et les autres, traitées parfois, je pense, avec un peu d'humour.
Oui, il y a l'anthropophagie, il y a une forme de pansexualité où tout le monde mange tout le monde.
Voilà. Oui, mais je pense que j'écris à hauteur d'un point de vue de nulle part, en fait. Je ne suis plus du tout adulte quand j'écris. J'ai oublié que j'avais étudié la philosophie et je retrouve un état presque polymorphe, quoi, où je me mets dans la peau de mes personnages. Je me dis comme ça, c'est même pas tout à fait juste. J'essaie de retrouver un état intérieur qui me permet d'être tour à tour différentes choses. Moi, c'est ça qui m'intéresse quand j'écris, quoi. Je veux pouvoir devenir une pierre à différents moments, et je pense qu'on a besoin parfois de devenir une forme de pierre. Écrire du point de vue d'un personnage féminin aussi, dans Pense aux pierres, tout est passé, le cas. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, il n'y a pas vraiment de documentation. Je dirais que la documentation, c'est toutes les lectures qui sont là depuis toujours et qui m'accompagnent, mais je me ferme assez fort à ça au moment où je travaille.
Oui, mais je comprends ce que tu dis, parce qu'en effet, on fait des romans et pas de la politique, mais même si on ne veut pas dire quelque chose, on dit quelque chose. Tu vois, même si tu ne veux pas te mettre dans tes livres et ton intelligence ou tes études, d'où tu viens, excuse-moi, je ne sais pas vraiment d'où tu viens, à part de la Belgique, mais je veux dire. De toute manière, on fait passer énormément de choses dans nos livres. Qu'on le veuille ou non, nos livres nous prennent, nous, quoi. Tout entier, quand on lit des livres d'un auteur particulier, on retrouve quelque part sa vision du monde, son optimisme, son pessimisme. C'est pour ça que je préfère lire les livres de Jacques Roubaud que ceux de Michel Houellebecq, par exemple. Parce que je pense que je préférais aller prendre un café avec Roubaud. Mais même sans vouloir, même sans parler de ça, parce que Roubaud va être très formaliste, mais Houellebecq, il assume qu'il défend des idées. Mais même ça, de toute manière, même si on peut dire des trucs très artistique sur oui, il ne faut pas être intelligent. Je suis tout à fait d'accord. Souvent, les livres sont trop intelligents, surtout les livres français, par ailleurs. Mais par ailleurs, de toute manière, on dit des choses. Moi, j'étais formée en collapsologie assez longtemps. J'étais quand même 6 ans journaliste à la décroissance dans le milieu sur le journalisme antiproductiviste. Alors, c'était pas forcément la collapsologie, j'adore ce mot, mais le peak oil, enfin le pic de pétrole, des choses sur la fin du monde. J'en ai pas mal entendu. J'en ai pas mal vécu des histoires là-dessus, sur le milieu écologiste. Avec toute l'histoire de l'écologie, où quand même, dans les années 70, en Angleterre, ils faisaient plus d'enfants dans certains milieux, parce qu'ils pensaient vraiment que l'apocalypse nucléaire, notamment, a complètement traumatisé pendant des décennies, quand même, tout un milieu. Maintenant, finalement, on accepte que ça reste là. Mais enfin, quand même, quand on a écrit l'apocalypse, finalement, je suis revenue au nucléaire. C'est quand même ça qui nous pend tous au nez. Mais en tant que tel, moi, évidemment, je passe quand même dans le livre. Parce que mon espoir profond, c'est que on s'en sortira tous ensemble. Alors que je pense que Tournier, qui était à moitié un moine, il faut quand même dire, lui, voulait défendre. Enfin, il n'avait pas à défendre, mais il était quelqu'un qui était tenté par le monastère. Voilà. Alors que moi, je suis en permanence à me dire, oui, j'écris tout seul dans mon coin, mais je devrais faire des choses pour les autres, ou je devrais rester avec les autres. Voilà. Et donc ça se sent dans mon livre, comme ça se sent dans tous mes autres livres, que je le veuille ou non. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas en rajouter. Voilà.
Il y a une correspondance assez évidente qui apparaît à un moment de vos deux livres, c'est qu'on est quand même dans des mondes alors très différents. Hein. C'est pas, il ne faut pas croire que juste parce qu'on est après la catastrophe, les mondes décrits par Sophie Divry et Antoine Vauteur se ressemblent. Mais bon, dans les deux, il y a quand même de la solitude, de l'angoisse, de la peur. Et il y a un moment de joie qui est dans les deux livres lié à une naissance. Alors, dans le vôtre, c'est le fils de Hardy. Dans le vôtre, c'est un chaton. Deux chatons. oui, je pense, parce qu'après, il y en a un qui meurt, donc c'est horrible. Mais voilà, pourquoi avoir choisi ça ? Ce qui peut, comme ça, paraître un peu naïf, quoi, la vie qui renaît au milieu des cendres.
Bon, en fait, c'est plus compliqué que ça. Je crois qu'il y a d'autres moments joyeux.
Ah oui, non, j'ai pas dit que c'était le seul.
Mais c'est vrai
il
que
est singulier.
Marthe, un des personnages principaux, elle est obsédée à l'idée d'avoir des enfants, alors qu'en fait, elle n'en a pas. Mais elle est obsédée. Elle se dit, je vais en avoir forcément. Ça ne peut pas m'échapper. Et donc, vous avez compris qu'il y a des pratiques sexuelles assez libres dans la petite bande qui forme. Et c'est vrai qu'à un moment donné, mais est-ce que c'est vraiment elle qui va avoir un enfant ou pas ? Moi, je pense que c'est plutôt un enfant qui leur tombe dessus. C'est-à-dire qu'il y a un personnage, un petit garçon qui vit dans une bouche de métro, que j'appelle une bouche de maître. Et c'est un petit garçon qui vit tout seul, qui n'a pas de parents. Ses parents sont morts. Et il va rejoindre la bande de Marthe et de Hardy. Et ils vont l'adopter, en fait. Pour moi, c'est ça. Et c'est vrai que c'est à la fois source de beaucoup de joie et en même temps, ils ont conscience qu'avoir un enfant, avoir la responsabilité d'un enfant dans le contexte qui est leur, c'est extrêmement difficile. Et pour moi, c'est une réjouissance, mais qui est fausse. C'est simplement un événement qui se produit et qui dit, tiens, oui, il y a encore des choses qui se produisent de cet ordre-là, mais c'est presque plus un étonnement qu'une joie. Nous, derniers nés du monde, peut-être les derniers hommes aussi dont parlait Nietzsche, une naissance est encore possible. Mais c'est juste ça, je dirais que c'est quand même assez anecdotique. Dans le Pour moi, la vraie réjouissance, c'est Johnny Hallyday. Et puis après, je te cède la parole, hein, Sophie, mais ils se recréent des rituels, presque religieusement, et une forme de ciment du groupe, c'est notamment de chanter des vieux airs poétiques, dit Hardy, de Johnny Hallyday, qu'ils appellent Josh Holloway's, parce qu'ils ont perdu la mémoire, ils n'ont plus connaissance de tous les philosophes qui les ont précédés, et quelque part, le seul philosophe gourou auquel ils peuvent se référer, c'est Johnny. Et je trouve assez ironique que, mais en même temps, peut-être c'est pas si ironique que ça, que dans un monde à venir, les penseurs, les derniers penseurs auxquels on pourra peut-être se référer, ce sera des gens comme Johnny. Ça m'obsède. Je me dis peut-être que quand la culture sera totalement trouée, les seules brèches par lesquelles le savoir, la pensée et peut-être aussi l'espoir, je ne sais pas, passeront, ce sera ça. Des chansons très populaires, mais dans le sens, je dirais ici, assez positif du terme.
Oui, les chatons.
Les chatons. Oui.
En fait, le problème, quand on a... Donc, l'essentiel du projet, c'est le Robinson Crusoe. C'est ça que je voulais écrire. Et le problème, c'est qu'il y a un seul personnage en Robinson Crusoe. Alors, c'est un peu... C'est difficile, en termes d'écriture, de faire un roman avec un seul personnage, parce qu'on n'a pas de dialogue. Il n'y a pas d'événement qui est lié justement à l'interaction humaine. Donc, on le sent dans l'écriture, comme on le sent en tant que dans la solitude. Quand on est tout seul, et bien, il se passe moins de choses. Donc, toute une question rythmique. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment, à la fois que j'ai trouvé dans la souffrance la manière de narrer cette troisième partie, et à la fois, il faut que... Parce que moi, j'ai horreur de m'ennuyer quand je lis un livre, en général, dans la vie, mais il faut quand même qu'il se passe quelque chose, que le temps se déroule. Et du coup... La naissance des chatons est un moment très important parce qu'il y a enfin du nouveau, alors que sinon, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et ça dit aussi quelque chose de très important, c'est que là, on est dans le bonheur, dans la phase de grand bonheur d'être seul dans sa ferme et d'avoir reconstruit un monde. Mais l'homme ne peut pas rester seul. L'homme tisse toujours des relations, quoi qu'il arrive. Et quand il n'y a plus d'hommes, il tisse des relations avec des animaux. Et s'il n'y a plus d'animaux, il tisserait des relations avec des insectes. En prison, il y a des gens qui ont tissé des relations avec des araignées pour réussir à les apprivoiser, tellement on ne peut pas ne pas tisser de relations. C'est pour ça qu'en prison, ce qui est abominable, c'est les cellules d'isolement où la personne, on ne voit plus personne. Et donc, le chaton est en effet la vie et tout ça. Mais c'est à la fois une grande altérité, parce qu'en fait, il fallait que je raconte ça, le rapport à l'animal qui peut être extrêmement important pour mon personnage. Et à la fois, ce que j'ai toujours senti différemment dans les Robinson, c'est qu'à la fois, il y a un mur, quoi. On ne peut pas communiquer avec un animal. Il ne nous demandera pas comment s'est passée ta journée. Et donc, ça se joue à partir de là. Quand j'amène deux petits chatons dans le bouquin, ça fait du bien à tout le monde, quoi. Voilà, moi aussi.
C'est terrifiant.
l'idée d'être le dernier, hein, se demande Joseph Kamal, votre personnage. Et vous, Antoine, il y a un moment, une interrogation, qui sera le dernier? Est-ce que c'est quand même un peu ça le point de mire de votre écriture? C'est quel serait le comportement du dernier homme? Est-ce que vous avez employé ce terme?
Oui, 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 oui et non, je ne sais pas. Non,
je peux passer une autre question, hein, j'en ai encore plein.
Non,
il y a quand même un truc, parce que bon, forcément, la route a été un moment, je pense, marquant de cette littérature post-apocalyptique. Et là, alors, c'est pas pareil, mais à la fin de Trois fois la fin du monde, Joseph repart en errance. Vous, Antoine, ça se finit pas avec ça, mais il y a quand même la fuite. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le monde d'après la catastrophe, comme vous, on peut pas rester en place. On est obligé à un moment de reprendre la route, précisément.
Oui. Mais après la catastrophe, ici, il y a deux tendances dans Montmartre et les autres. Ils quittent Paris. Ils habitent à Montmartre, auquel ils accèdent par le funicule. Et à un moment donné, se disant que tout est perdu, ils ont quand même l'espoir de trouver ce qu'ils appellent les îles mystérieuses. Et ils se mettent à cheminer, à traverser toute la France. Et je ne sais pas exactement où ils arrivent, en Normandie ou en Bretagne. Et là, ils construisent ou ils imaginent construire une sorte d'embarcation qui les mènera ailleurs, dans un endroit où ce sera possiblement mieux. Et il se trouve qu'en fait, c'est à ce moment-là que le personnage principal, Hardy, lui, a une sorte de prise de conscience. Il se dit « moi, je ne veux pas ». Humain, on hésite toujours entre l'envie d'en être, de participer à une action collective, on en revient à ce qu'on disait, et en même temps à l'envie de s'en extraire, se dire non, moi je ne peux plus. Et quand j'écrivais le livre, c'est exactement ce que je vivais. J'avais à la fois énormément besoin de soutien de mes proches, etc. Et en même temps, j'avais besoin d'une immense solitude, presque comme un animal ou un philosophe malade. Aurait besoin pour mourir, quoi. Je me suis vraiment senti dans cette disposition là j'avais besoin de l'autre, et en même temps je me disais, mais si tu es à ce point là au fond du trou, peut-être va t'isoler dans un coin et y mourir peut-être. Et donc le personnage de Hardy, c'est ce qu'il fait, mais sur un mode qui n'est ni positif ni négatif, ni profondément plein d'espérance ni désespéré non plus. Simplement, il imagine quitter cette petite côte où ils sont, où ils veulent embarquer, et il fait chemin inverse. Il retourne sur Paris et il choisit au hasard une maison du côté du centre Pompidou, et il se dit, tiens, là-bas, je pense que c'est la maison où je suis né et où j'ai vécu avec mes parents. Et c'est là qu'à la fois il renaît et que peut-être dans un autre sens il meurt aussi. Mais ça se passe sur un mode très presque nostalgique. Il dit à un moment donné dans le livre que c'est surtout ce qu'on n'a pas connu qui nous rend triste. Et c'est vrai que cette question de la nostalgie, de ce qu'on perd, de ce qui se perd en nous, de la question de ce que deviennent aussi nos pensées, nos amours, toutes les choses qu'on fait, qu'on peut dire, qu'est-ce que ça devient quand ça cesse, ou quand c'est plus dans le domaine du visible. Ça me questionnait beaucoup. Donc voilà, lui décide de rentrer seul dans une maison qui est la sienne et qui n'est pas la sienne, pendant que les autres, eux, rêvent d'un ailleurs.
Vous, Sophie, c'est une petite catastrophe dans la grande catastrophe, c'est-à-dire un incendie qui pousse Joseph à repartir.
Oui, vous racontez tout le bouquin, là, il ne faut pas...
Il y a trois parties...
Là, je veux dire qu'il ne se passe rien qu'un seul personnage, si vous racontez les seuls trucs qui se passent...
C'est un pitch,
on a beaucoup d'autres. Hein. Par rapport.
Non, mais ouais, pourquoi est-ce qu'il faut forcément. On ne peut pas stabiliser quelque chose dans le monde d'après ?
Disons que moi, j'avais envie quand même d'arriver jusqu'au bout de mon paradoxe. C'est-à-dire que c'est infernal de vivre avec les autres, mais c'est impossible de vivre tout seul. Parce que si j'avais arrêté en effet 30 pages avant, j'arrivais sur du. C'est formidable de vivre tout seul. Et ce n'était pas le but, en effet. Donc, parce que j'avais quand même une intention de mettre en image. Une idée. Voilà. Mais vous savez, après, un roman, c'est toujours... je trouve que c'est toujours très difficile de faire tenir un roman debout, quoi. Enfin, après, on peut faire de la fiction-fiction. Il ouvre la porte, il ferme la porte et tout ça. Il était habillé avec un truc à rayures ou un truc orange. Mais moi, ça m'ennuie beaucoup, quoi. Dans les jeunes noms, toujours, comment on fait pour qu'un roman, il tienne debout, quoi. Pourquoi écrire un roman? Enfin, tout le monde... Personne nous... Donc, à un moment donné, c'est un tableau. Et dans ce tableau-là, évidemment, c'est une fin du monde... et à un moment donné, il doit y avoir quelque chose qui retombe. Voilà. Mais je pense, je savais pas, moi, que je sais. Enfin, j'ai mis 3 ans à écrire le livre, donc ça commence à faire déjà, ça commence à déjà à s'engloutir le pourquoi du comment j'ai écrit ça ici. Mais je sais qu'à la base, c'était pas forcément ça la catastrophe, c'était autre chose. Puis là, j'ai fait beaucoup plus simple. Parce que je pense quand même qu'il faut arriver qu'une œuvre d'art se referme en fait. Voilà. Il y en a qui écrivent de manière plus fragmentaire, plus beckettienne, hein, pour Antoine. Mais moi, j'ai une conception et un héritage en fait assez classique de l'art et de la littérature. Et je vous fais un triptyque où à la fin, c'est aussi sombre qu'au début. Voilà, parce que ça a la puissance de la cohérence. Voilà. Ça a la puissance de la cohérence. Mais en tant que tel, il ne repart pas en errance. Pour moi, on passe de ils, ce sont les autres le problème, à moi, à jeu, au jeu en permanence, dans la tête même du personnage, jusqu'à arriver à un nous qu'on aurait dû, qu'on a gagné grâce à ce cheminement. Voilà. Donc il y a un cheminement.
Alors que vous, Antoine, vous terminez sur quand même, enfin la dernière partie s'intitule Les raisons d'espérer. Même si on y arrive, on a perdu quand même en route une bonne partie de la petite bande, des bras, des cœurs,
c'est la moindre des
têtes,
choses.
Voilà, donc elles sont où ces raisons d'espérer ?
J'en sais rien, je sais pas très bien. Moi, je pense que les raisons d'espérer, c'est... J'ai envie de répondre en parlant de l'autre livre. Il y a le titre « Pense aux pierres sous tes pas », pour moi, elles sont là. C'est presque comme un mantra, quelque chose qu'on peut se répéter. C'est-à-dire qu'en dehors de cet instant-ci, il n'y a possiblement rien. Et pour moi, les raisons d'espérer, c'est de réussir à, dans un monde qui va très vite, de s'arracher à cette vitesse-là en se disant « Tiens, ok, peut-être que ce que je viens de vivre est très compliqué. En attendant, il existe quand même toujours quelque chose. » Et ce quelque chose-là, ça peut être simplement fumer une cigarette seul, faire une rencontre ici à Manosque et découvrir Sophie, vous découvrir aussi, être là. Pour moi, ça, c'est déjà le début de quelque chose. Et dans le roman, je ne pense pas que ça va beaucoup plus loin. Simplement, eux s'imaginent quelque chose... On ne peut pas s'en empêcher. On imagine toujours que quelque chose de très, très beau peut se produire. Et en même temps, je pense que c'est peut-être une erreur. Je pense que l'idée, c'est de cheminer petit à petit en étant très ancré, très, très, très présent à ce qui advient.
Il nous reste une petite dizaine de minutes. Juste 2 dernières questions avant de faire passer un micro dans le public. L'apocalypse, c'est à l'origine un terme religieux. Et les dieux sont assez peu présents dans vos livres. Enfin, Sophie, à un moment, votre personnage, Joseph Kamal, imagine que peut-être c'est des juges qui l'ont envoyé là et qu'il est produit d'une expérience de dieu à grande corne. Je me souviens plus exactement, mais mangeant une grande herbe magique. Vous, Antoine, il y a quand même des sortes de réinventions de rituels, notamment funéraires, hein, c'est-à-dire qu'on enterre les morts, la tête le plus profond, la tête en bas, le plus profond vers la terre, pour peut-être qu'un feu vivant puisse, si ce n'est les ressusciter, du moins en tout cas leur donner de la chaleur. Pourquoi est-ce que les dieux sont singulièrement absents ?
Ouais, je ne sais pas, c'est par accès de laïcité peut-être Non, mais je pense arrêter. Si on commence à remettre Dieu dedans tout ça, c'est un personnage assez lourd. Voilà. Déjà, j'avais vu le diable dans mon précédent.
Il n'est pas facile à représenter. Donc,
voilà.
En plus.
J'avais lu un bouquin très, très affreusement machiste, d'ailleurs, qui s'appelle de Robert Merle, Malville, où il y a toute une question sur la religion, tout ça. Bon,
oui,
moi,
donc,
ça m'a.
Une catastrophe nucléaire, hein, pour eux.
Oui, voilà, c'est pareil, c'est un livre apocalyptique, tout ça, mais. Où il y a toute cette question-là qui se pose. Si on rentre dans cette question-là, en effet, c'est du lourd. Voilà. Et moi, j'avais envie de traiter autre chose. Donc, en effet, assez consciemment, si on commence à commencer à donner trop de religion, alors il a un peu de religion, on ne sait pas trop, parce que quand arrive Noël, quand même, il a grave le blues. Mais je pense qu'en plus, quand on est tout seul, quand c'est la fin du monde, en fait, sauf les gens hyper socialisés religieusement, je pense que la question ne se pose plus. Parce que la religion, il faut qu'on soit plusieurs à nouveau. Mais c'est surtout techniquement, j'ai un peu évité la question, parce que ça aurait été un autre roman. De même que j'ai quand même pas non plus en plein traité la question sexuelle que Tournier traite à sa manière. Moi, je trouve ça un peu carré. Moi, j'ai envie de dire, oui, les mandragores, tout ça, enfin, on n'y croit pas du tout, mais c'est pas grave, c'est un roman. Et j'avais pas envie non plus trop d'aller là-dedans. Voilà. Même si la sexualité en prison, elle est évoquée, évidemment, mais on reste à peu près à ce niveau-là. Alors que chez Antoine, on sent que malgré tout, la fin du monde permet aussi quelques réalisations de fantasmes. Mais dans le sens, À plusieurs, c'est plus pratique. Il y a plusieurs personnages, quoi. Tout seul. Bon, une fois qu'on a traité ça, sur...
même s'il y a un mouton.
Voilà, ce qui m'intéressait plus, c'était plus que retravailler la question. Il y avait quand même des principes féminins qui sont là, notamment la rivière qui traverse le domaine. Évidemment, le chat, la chatte, qui est quand même un principe féminin, évidemment, notamment par la maternité ensuite, qui permet de redonner de la vie. Mais et le mouton, qui est le mouton noir, comme par hasard, qui est une espèce de frère. Mais en tant que tel, vous voyez, quand on écrit un roman et qu'on commence à vouloir traiter une question à peu près, moi, c'était la question de est-ce qu'on peut refaire le monde avec des animaux tout seul ? Qu'est-ce qu'on se rappellera des autres ? Comment les autres nous manquent ? Moi, souvent, dans les Robinson que j'ai pu lire, enfin, même celui de Tournier, j'allais dire, au fond, on ne raconte pas à quel point on crève de ne pas avoir une conversation le soir, que la souffrance que c'est de ne pas parler, de ne pas entendre une voix humaine, etc. Et du coup, si je voulais vraiment traiter ça, et toute la question de la nature, qui est la description de la nature, qui était vraiment un gros, gros morceau, qui est une sorte de divinité, au fond, quelque part, mais sans valeur, on va dire, on ne peut pas trop en mettre. Voilà. Donc, c'était déjà lourd, hein, trois fois la fin du monde, c'est déjà pas mal, donc je n'ai pas mis Dieu. Voilà.
Je peux lire un tout petit bout. C'est un exemple de rituel presque religieux qui concerne donc... les enterrements, la mort, etc. Chez nous, chaque enterrement est suivi de chants, chaque chant suivi de prières, chaque prière d'ablution, d'oblation et de larmes. Les filles se tiennent en cercle autour des hommes, les hommes en cercle autour du corps défunt, que nous touchons une dernière fois, les uns après les autres. Seule Marthe ne participe pas, elle préfère s'occuper des petits. Nous dormons sur nos morts depuis toujours. Nous les enfouissons dans la terre, les pieds en l'air, la tête en bas, et poussons le plus fort possible pour que leur cœur s'enfonce très loin, où la terre brûle, où la roche fond, où le feu est vivant. Nous pensons qu'avec un peu de chance, la chaleur peut les réanimer. Nous ne pensons pas la vie comme tuée par la mort. Nous pensons que tout peut revenir et l'appelons de nos vœux, ainsi de nos vœux, de nos espoirs.
Ça fait une bonne conclusion pour cette discussion, mais quand même une mini-question encore. Qu'est-ce qu'on a envie d'écrire quand on a écrit sur l'Apocalypse ? Antoine, vous avez l'air d'aller mieux.
Évidemment. Non, mais c'était voilà, passager. Puis c'est, on n'a pas vraiment évoqué l'autre bouquin, mais ayant écrit ces livres-là, et je suis passé moi-même des ombres à quelque chose de beaucoup plus clair. L'écriture a eu un effet très positif. Et donc non, ce que j'ai envie d'écrire, c'est, je sais pas, mais en tout cas, je sais que je n'écrirai plus depuis le point de vue qui était le mien à l'époque. Et en même temps, je suis extrêmement heureux d'avoir été si mal, il y a un monsieur qui rentre dans son garage, d'avoir été si mal à une période de ma vie, parce que je pense que l'apocalypse, les choses qui se passent mal, je ne vois ça que de cette façon, c'est avant toute chose, le symptôme de quelque chose d'autre et de quelque chose qui va changer et qui va changer positivement. En fait, la catastrophe, elle a déjà eu lieu. Et il y a une phrase de Calvino que j'aime beaucoup et je finis avec ça. C'est, il dit, notre tâche à nous, humains, c'est d'essayer de trouver au milieu de l'enfer ce qui n'est pas l'enfer et de le faire durer et lui faire de la place. C'est ça mon obsession et c'est ça que j'essaye de creuser dans mes livres, dans ceux-ci et puis peut-être dans ceux qui suivront, si certains livres suivent, je ne sais pas.
Moi, j'ai surtout envie de pas écrire là en ce moment. C'est vrai que c'est un bouquin que j'ai écrit pendant 3 ans dans le doute constamment. C'est vraiment affreux. Sauf peut-être la première partie qui était assez simple à écrire. Sinon, c'était vraiment très difficile, particulièrement difficile parce que en effet, il y avait quelque chose de. C'était le plus fictionnel. Le plus loin de la société actuelle, on va dire, même si c'est mentalement exactement dans ce qui nous préoccupe, ce qui nous désempare et ce qui nous travaille, mais c'était le plus loin. Mais ça m'a demandé un effort de fictionnalisation et de... Je pense que psychiquement, c'est très difficile d'écrire ça parce que d'une certaine manière... bon, là, on a beaucoup parlé, bon, de Robinsonade, de l'apocalyptique, mais il y a toute une partie du bouquin qui est aussi plus proustien dans le sens où peut-être tout ça n'est qu'un rêve. Voilà. D'ailleurs, la première partie, d'ailleurs, en prison, à la base, il y avait quelque chose d'assez... avec beaucoup plus de choses fantastiques, on se demandait si le personnage ne le rêvait pas et que si tout ça n'était pas juste une espèce de fantasme, 3 fantasmes à la suite. Et moi, j'ai fait cette expérience-là avec le personnage. Donc, du coup, il y a aussi le fait que je pense que la catastrophe aussi, c'est l'écriture. Et que d'une certaine manière, le livre raconte autre chose qui m'a échappé voilà, sur ma vie. Et du coup, c'est pour ça que c'était super difficile à écrire. Mais là, je ferai un peu comme après la condition pavillonnaire. J'ai envie d'écrire un livre où j'ai du plaisir à l'écrire. C'est tout ça. Ouais, c'est ça qui compte pour moi. Mais pour l'instant, là, je vais juste continuer à faire autre chose. Pour l'instant, on n'est pas obligé d'écrire hein, non plus, parce que moi, j'ai beaucoup écrit quand même ces dernières années. Et voilà, je vais attendre de recharger les batteries.
Merci beaucoup. On a vraiment 3-4 minutes. S'il y a une ou deux questions, vous pouvez passer un micro parce qu'on doit libérer l'estrade. Enfin, moi, je ne le libère pas parce que vous me retrouvez à 18h avec Jean-Christophe Bailly. Madame.
Oui. C'est une question qui est plutôt adressée à Sophie Livry. J'aurais voulu revenir sur le choix que vous avez fait dans le roman d'une zone qui ne serait pas touchée par la catastrophe. Et là, personne n'en a parlé, on n'y est pas revenu. Et je me demandais si c'était une ouverture que vous aviez évitée ou si c'était quelque chose qui était encore ouvert à la fin du roman, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un possible vers cette zone vers laquelle Joseph aurait dû aller à un moment, vers laquelle il ne va pas. Voilà, qu'est-ce qu'elle devient ? Qu'est-ce qui devient ce territoire qui n'a pas été touché ?
Il y a un territoire qui n'est pas touché, qui est la zone sécurisée, la zone, une fois dite libre, qui représente justement la société. Et c'était important pour moi qu'elle existe même à 300 km à vélo ou à pied, parce qu'il n'y a plus de batterie dans les voitures. Mais elle reste comme un pôle d'attraction et au début de répulsion. Voilà. C'est contrairement, en effet, à des Robinson où on est sur une île déserte, où là, c'est difficile. Là, c'est possible d'y accéder. C'est la part mentale qui dit « Est-ce que je ne devrais pas rejoindre les nôtres ?» Voilà. Mais en tant que tel, oui, ils sont là, ils sont dans des... Mais il n'y a rien de plus que la possibilité, pour moi, c'était très important, qu'il y ait cette zone-là et que Joseph décide de ne pas y aller. C'était ça qui compte et c'est ça qui fait la différence avec d'autres mythes de Robinson Crusoe. Mais en tant que tel, c'est les autres, c'est le grand « les autres ».
Merci. Je voulais féliciter, si je puis dire, les correspondances d'avoir invité des romanciers comme Sophie, Antoine et Marie Dariussec demain qui parlera de son bouquin sur le sujet de la catastrophe puisque nous sommes si près du site nucléaire de Cadarache qui a une forte influence dans la région. C'est très rare et très courageux d'aborder ce sujet, donc je voulais le souligner. Et je voulais demander... Ah oui, vous avez posé une question à un moment, la question de la fiction et l'anticipation. Ça m'a beaucoup étonnée que vous parliez de ça, parce que depuis Hiroshima, Nagasaki, Tchernobyl et Fukushima, comment peut-on parler de science-fiction puisqu'on y est ? Et que la catastrophe annoncée en France, elle est pour bientôt aussi. Hein, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui l'a avoué. Hein. Donc la question que je poserai, c'est peut-être plus spécifiquement à madame, c'est est-ce que vous avez choisi d'écrire sur ce thème parce que les actions militantes n'arrivent hélas pas à toucher la population qui reste globalement dans le déni? Ou bien, est-ce que l'écriture, pour vous, est un moyen de toucher davantage de personnes, puisque vous avez dit que vous aviez été une personne militante. Donc, est-ce que c'est ce choix de... Voilà. Est-ce que ce problème gravissime, vous pensez qu'il sera mieux dans un roman que dans une action militante banale, si je puis dire.
Oui, merci. Oui, mais je suis d'accord sur la... Fukushima, tout ça. Mais ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a beau avoir Fukushima, on a beau être... En plus, moi, je suis à Lyon, dans la région la plus nucléarisée de France, le pays le plus nucléarisé du monde. Tant que c'est pas arrivé, ça n'existe pas. Vous voyez, la force de... Parce que c'est impossible. Oui, mais parce que ça s'explique très bien, le déni. Parce que de toute manière, si on passe son temps à penser qu'il va y avoir une explosion nucléaire, ce qui, en effet, je pense, dans les 50 années à venir, sera sans doute la catastrophe la plus probable qui va arriver, puisqu'elle ne peut pas ne pas arriver, et que c'est fait pour arriver, et qu'on est le pays le plus nucléarisé du monde, et que les centrales arrivent à terme de leur vie, et qu'on ne veut pas les fermer. Donc ça finira par arriver, mais une fois qu'on a dit ça, on milite, moi je fais ma part, etc., mais l'esprit humain ne peut pas faire plus que d'être terrorisé. Voilà. Et comme c'est quand même pas très, très fécond d'être terrorisé, la prise de conscience ne peut être que politique. Moi, je fais ma part, je fais les choses, je vote à mon avis comme il faut, etc., mais à part ça, on ne peut pas comme je dis, on ne peut pas être en permanence, ça va péter, mais après, à part se terroriser soi-même, et après, quoi. Voilà. Donc du coup, en effet, je pense qu'il faut en permanence se battre contre le nucléaire, pour répondre entièrement d'accord avec vous. Mais après, pour répondre à la deuxième question, je ne sais pas si biographiquement, je peux tirer des conclusions biographiques sur pourquoi j'étais militante, j'étais journaliste militante, en gros, mais... Et puis après, je vais faire de la littérature. Je pense que quand j'avais 10 ans, je voulais faire de la littérature. J'ai cherché un travail, j'ai fait ce travail-là. Et forcément, pour moi, le journalisme, c'est du journalisme engagé. Ça n'existe pas autrement. Mais après, je n'ai pas fait de politique. Là, les gens confondent souvent le militantisme et la politique. Non, le militantisme, c'est quand on se présente et qu'on fait 1% parce qu'il dit qu'il faut partager les richesses. Et le politique, c'est quand on veut garder son siège et qu'on se... Voilà. Donc, en tant que telle, j'ai eu une période de militante. Et en effet, je pense que d'une certaine manière... je dois faire avec ça. Voilà. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, les livres militants, ça m'ennuie terriblement. Je pense que la littérature n'est pas là pour militer, pour autre chose que la littérature. Mais n'empêche qu'en lisant mes livres, vous voyez qui je suis. Quand vous lisez La Condition pavillonnaire, vous avez très bien compris mes idées, en général, aussi. Voilà. Mais en tant que telle, moi, au contraire, vu que j'ai une vraie militante, je sais très bien qu'on ne peut pas faire avec les livres ce qu'on pense qu'on peut faire par le militantisme. Changer le monde, ce n'est pas par des livres qu'on le fera. Je suis désolée, ça ne change pas la littérature, ne change pas le monde. On n'a jamais vu Kafka brandi sur les barricades en 68. Ça n'existe pas. Et on ne fait pas coup double, comme disait Bourdieu, ce n'est pas vrai. On ne peut pas travailler dans la chose publique, on ne peut pas s'engager politiquement et être un écrivain vraiment, vraiment concerné. Parce que ce n'est pas les mêmes libidos, ce n'est pas les mêmes énergies. Et nous, en tant qu'écrivains, en fait, on a besoin d'être seul, on a besoin de se créer son monde, d'être dans sa cabane au fond des bois. Et c'est une terrible déception et une terrible trahison des camarades. Voilà. Et donc ça, il faut l'accepter. Mais par contre, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. Voilà. Par contre, ça ne m'empêche pas en tant que citoyenne, mais là, je suis exactement au même niveau que vous, de faire ce que j'ai à faire, de considérer que ce que j'ai à faire pour mes idées. Mais en tant qu'artiste, je sais qu'il ne faut pas... J'aurais pas envie de refiler mes idées par des fictions qui démontreraient quelque chose. Mes fictions, elles sont là pour démontrer que l'art, ça vaut la peine et que ça vaut la peine de lire un roman plutôt que répondre à son téléphone portable pour une bêtise. C'est tout. Mais en tant que tel, c'est un deuil à faire de certaines volontés de changer le monde. Mais d'autres le font. Moi, je vais bientôt avoir 40 ans. Je dis, bon, ouais, ça va, j'ai fait ma part. Si tout le monde déjà fait du militantisme pendant 10 ans, ça serait déjà pas mal.
Une dernière question. Non. Bon, ben, Antoine Vauters, Pense aux pierres sous tes pas, moi, Marthe et les autres, c'est aux éditions Verdier, et la, trois fois la fin du monde, c'est aux éditions Noir sur Blanc. Merci beaucoup, et les livres peuvent être procurés ici.